gratuit.
Voici les titres du journal.
Et vous avez peut-être remarqué la semaine dernière sur les pistes des Portes du Soleil des vestes jaunes et rouges. Il s'agit de skieurs souffrant d'un handicap visuel guidé par leur accompagnant. Le camp GRSA s'est terminé ce samedi à Champéry. La première édition du Festiver a fait carton plein ce week-end au Mos. Face au succès, les organisateurs de ce festival dédié à la montagne annoncent déjà une deuxième édition. En football, le Bellerin Salim Khelifi a annoncé prendre sa retraite sportive à seulement 32 ans. Nous l'entendrons dans ce journal. Et puis au lendemain de son 26e anniversaire, Mathilde Gremaud a l'occasion de s'offrir la 4e médaille olympique de sa carrière. La Fribourgeoise est l'une des grandes favorites de la finale du ski slopestyle dames qui débute dans une demi-heure.
Et pour la météo, cet après-midi, un temps assez à bien ensoleillé. Il faudra en profiter parce que demain, à part quelques éclaircies, le temps sera très nuageux. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Ludovic Turin. Bonjour Ludovic.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le groupement Roman des skieurs aveugles et malvoyants, appelé aussi GRSA, était sur les pistes de Champéry toute la semaine dernière. Reconnaissables par leur veste jaune et rouge, ils en ont profité pour faire connaître leur groupe auprès de la population. Grâce à une personne qui les guide avec la voix en indiquant les directions, les virages ainsi que les potentiels dangers, les personnes atteintes de handicap visuel peuvent ainsi continuer la pratique du ski en toute sécurité. L'un de ces dangers peut venir des autres skieurs qui peuvent parfois ne pas faire attention. Nathalie Dupertuis, l'une des guides, nous donne quelques conseils pour que la cohabitation sur les pistes se passe au mieux.
L'essentiel, c'est déjà de nous connaître, de savoir que les vestes rouges et jaunes, on ne passe jamais au milieu des deux. Donc si on est en train de skier, on est un peu attentif à ça, ça c'est le plus important. Quand on démarre une piste, peut-être, à partir du moment où on a vu qu'il y avait un tandem, laisser un petit peu de marge ou les laisser partir ou faire un petit signe au guide pour savoir que c'est OK qu'on part, pour nous donner un petit peu plus de sécurité.
Des propos recueillis par Léa Journeau. Sur les pistes, les plus curieux sont d'ailleurs invités à venir leur poser des questions avec comme objectif de sensibiliser la population à l'existence du groupement roman des skieurs aveugles et malvoyants.
Les organisateurs du festival ont le sourire.
Et pour sa première édition, ce festival dédié à la montagne a fait carton plein ce week-end au Mos. Les balades accompagnées ont été victimes de leur succès puisque les responsables ont même dû en rajouter afin de satisfaire le public. Les autres animations comme la construction d'igloos ou même la projection d'un film le samedi soir a attiré de nombreux visiteurs. Rien que pour la journée du samedi, près de 500 personnes ont fait le déplacement. L'objectif de faire découvrir la montagne autrement que par le ski est donc rempli et le comité d'organisation réfléchit déjà à la prochaine édition. Laurent Kern.
On a un soutien de la commune de Romont-Dessous sur plusieurs années, donc on est parti quand même sur une lancée, et puis on attendait quand même cette première édition pour voir comment ça allait être accueilli par le public. Et là, évidemment, on parle déjà de Festiver 2027, absolument. On a déjà quelques idées de choses qu'on va rajouter, qu'on va adapter. Par exemple, on va préparer plus de pâtes à crêpes, parce que voilà, il y a beaucoup de demandes pour les crêpes, et voilà, donc ça c'est un petit exemple de choses qu'on va augmenter. Mais notamment aussi au niveau des randonnées, parce qu'on a voulu commencer voilà, raisonnable. Et puis, autant samedi qu'aujourd'hui, on a dû en rajouter. Et puis, celles qu'on rajoutait sont parties aussi avec beaucoup de monde, quoi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qu'on se réjouit, c'est d'avoir aussi le retour des gens. Là, il y a les dernières randonnées qui vont bientôt arriver. Et donc, voilà, on regarde un peu les gens, on demande un peu leur avis. Mais en tout cas, hier, tout le monde avait vraiment le sourire jusqu'aux oreilles.
Et Laurent Kern, membre du comité d'organisation du Festiver, au micro de Léa Journeau.
Les OGM reviennent sur la table.
Le conseiller fédéral Albert Rusty veut autoriser les nouvelles techniques génomiques et une initiative populaire sera déposée ces prochains jours pour exiger un cadre restreint à l'utilisation de semences et de produits génétiquement modifiés. Les associations anti-OGM annoncent ce lundi matin avoir recueilli 133 000 signatures, non pas pour prolonger l'actuel moratoire, mais pour entrouvrir la porte à l'usage des OGM à des conditions strictes précisées dans la Constitution. La chargée de campagne romande de l'initiative, Margot Choderna.
C'est une initiative qui veut des règles strictes contre les OGM, mais qui cherche à faire un peu un compromis. Ce qu'on veut, c'est protéger les humains, les animaux et l'environnement des risques liés aux OGM. Et pour ça, on demande certaines règles qui sont notamment une évaluation des risques liés au génie génétique, la garantie de la transparence des étiquetages dans les rayons des magasins, et aussi le fait d'empêcher les brevets sur les semences pour que les agriculteurs, les agricultrices restent dépendants des multinationales agrochimiques et aussi évidemment que l'agriculture sans OGM soit absolument protégée. La proposition d'Albert Rushdie est complètement insuffisante. Il faut des règles beaucoup plus strictes et beaucoup plus claires, et aussi dans les définitions que le texte propose, il faut vraiment que ce soit écrit dans la Constitution que tous ces procédés sont des OGM, et même si les techniques ont évolué, ça reste des OGM.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. L'initiative intitulée « Pour la protection des denrées alimentaires » sera déposée à la chancellerie fédérale le 27 février, 4 jours avant l'échéance des 18 mois pour récolter 100 000 signatures.
À l'étranger, Antonio José Seguro a remporté hier le second tour de l'élection présidentielle portugaise.
Selon des projections des télévisions nationales, le candidat socialiste modéré recueillerait entre 67% et 73% des suffrages, devançant largement l'extrémiste de droite André Ventura. À 63 ans, Seguro devrait succéder le 9 mars au président sortant Marcelo Rebelo de Sousa, après avoir su rallier des soutiens de tous les bords politiques. Face à lui, Ventura n'a pas réussi à emporter l'adhésion des électeurs. Le nouveau président jouera un rôle central dans un pays où le gouvernement ne dispose pas d'une majorité claire au Parlement.
Elon Musk annonce un virage stratégique pour SpaceX.
La priorité n'est plus Mars, mais la Lune. L'entreprise veut désormais se concentrer sur la construction d'une base lunaire autonome, jugée réalisable en moins de 10 ans. Selon le milliardaire, les lancements vers la Lune sont bien plus simples et fréquents que vers Mars. SpaceX n'abandonne toutefois pas la planète rouge, avec un projet de ville martienne dont le début de la construction pourrait intervenir d'ici 5 à 7 ans. Ce changement s'aligne sur la volonté américaine de renvoyer des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis.
Salim Khelaifi n'est plus footballeur professionnel.
Et oui, le Bellerin a annoncé prendre sa retraite il y a quelques jours seulement. Âgé de 32 ans, il était sans club depuis juillet 2025. Après être passé par le Lausanne Sport, l'Allemagne et le FC Zurich, le Chablaisien avait connu des clubs plus exotiques ces dernières années, passant par l'Australie et le Venezuela. C'est son corps qui l'a forcé à devoir dire stop, Salim Khelaifi.
En fait, ça fait déjà une année et demie que j'ai des problèmes en fait à la hanche. Vraiment, ça me pénalise énormément. En fait, j'ai un problème à la hanche. J'ai un commencement d'arthrose à la hanche. Et ça me fait vraiment, vraiment mal. Là, j'ai vraiment de la peine à courir. Tout ce qui est sur le terrain, c'est vraiment difficile. J'ai vraiment essayé pendant 6 mois de faire une réa, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis, en fait, je pourrais continuer si soit j'opère ou bien je fais des injections de cortisone, mais je n'ai pas envie d'être à 35 ans et puis que mon corps soit... Je ne peux plus rien faire, tu vois. Donc, je pense que c'est la meilleure solution.
Mais Salim Khelaifi garde tout de même un pied dans le football, lui qui a été nommé entraîneur assistant des moins de 17 ans du FC Zurich. Vous pourrez entendre l'interview complète du Vaudois ce soir dans notre émission du 17h Max Sport, un sujet réalisé par Thierry Nicolet.
En basket, le BBC Trois-Torrents Chablais a joué à se faire peur samedi au Reposieux.
Opposé à Helios dans le derby valaisan de SB League Women, les Chorgues se sont imposés 83-70, mais avaient connu un premier quart plus que compliqué. Le score était de 25-4 en faveur des Vétrosiennes après 8 minutes de jeu seulement. Les impressions de la joueuse de 3T, Dounia Bourani.
C'était très compliqué. On sait qu'on a du mal à rentrer dans les matchs. Dans toutes les rencontres, on a du mal. C'est déjà arrivé plusieurs fois contre Nyon ou contre plein d'autres équipes. Et on savait qu'on allait revenir doucement. Mais c'est vrai que pendant le premier quart-temps, tu as la tête sous l'eau. Tu te dis, bon, t'as pas de solution. T'as juste envie que ça s'arrête. Et après, on a su montrer un autre visage tout au long de la rencontre. Mais voilà. Parce que c'était pas facile le premier quart-temps, mais parce que c'est une belle équipe aussi.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Chez les hommes, le BBC Monté-Chablais s'est quant à lui incliné 101-69 à Fribourg. C'était également samedi soir.
La délégation suisse a de grandes chances de médaille olympique aujourd'hui.
Et oui, outre le combiné par équipe masculin de ski alpin, la finale du slopestyle féminin pourrait permettre aux Helvètes d'agrandir leur collection. Titrée dans la discipline il y a 4 ans à Pékin et victorieuse des qualifications samedi, Mathilde Gremaud est en tout cas l'une des principales favorites au sacre. À 26 ans, qu'elle a fêté hier, la fribourgeoise dispute déjà ses 3e Olympiades. Il y a 4 ans, elle s'était aussi emparée du bronze en Big Air. Alors est-ce que ses deux premières expériences olympiques changent-elles sa manière d'aborder le rendez-vous de cette année? Sa réponse au micro de nos confrères de la RTS.
Oui et non, j'ai l'impression que 2018 c'était une situation différente, 2022 c'était aussi une situation différente, et puis 2026, encore une fois, j'ai l'impression que voilà, je suis déjà venu là 2 fois au jeu. J'ai beaucoup de départs en Coupe du Monde au compteur. J'ai aussi beaucoup de réussites finalement. Donc J'avais une médaille en 2018, mais ben, on avait deux compètes, ce qui était nouveau. Et puis maintenant, ben, on a toujours deux compètes, mais ben, je suis quand même championne olympique la dernière fois. Donc, ouais, c'est des situations finalement qui sont quand même nouvelles. Donc, ouais, je prends ça comme si c'était la première fois.
Mathilde Gremaud, l'une des grandes favorites de la finale du ski slopestyle féminin qui débutera à 12h30 à Livigno. Une autre Suissesse sera en lice, la grisonne Giulia Tano. Un sujet de notre envoyé spécial au JO de Milan Cortina, Christophe Morillon.
Radio Chablais, spéciale élection.
Et à l'approche des élections communales de mars prochain, Radio Chablais vous propose chaque jour un arrêt sur image dans une commune de la région. Objectif, faire le point sur les enjeux locaux, les forces en présence et les listes déposées à quelques semaines du scrutin. Aujourd'hui, place à Grillon avec les précisions de Valérie Favre.
Dans la station des Alpes vaudoises, deux départs sont annoncés à la municipalité. Les trois sortants, Pierre-André Burnier, Pierre-Étienne Chéry et Stéphane James, sont accompagnés sur une liste d'entente par non moins que six citoyens Tachi, Yann Schwenter, Megan Rabal, Christina Lejeune-Jacobi, Thomas Jacquinto, Nicolas Pelletan et Auric Torlund. La commune qui avait lancé un appel aux candidatures tant pour le conseil municipal que communal se voit servie puisque 52 Grillonnais se présentent également aux législatifs pour 35 sièges. Signe d'un intérêt pour la gestion communale ou d'un désaccord avec les autorités en place, il faut en effet savoir que la communication des autorités communales est parfois décriée, notamment à propos de certains dossiers sensibles comme l'éventuel déménagement du camping, du futur de la zone de Friance ou plus récemment une tyrolienne au sommet de la télécabine des Chaux. L'un des enjeux majeurs est celui du fragile équilibre entre préservation de la nature et du paysage et les besoins économiques d'une station qui vit essentiellement du tourisme. À savoir en plus que Grillon est une commune très endettée, la dette nette par habitant se chiffre à un peu moins de 6 000 francs par habitant dans le budget 2026 et montre une situation fragile, surtout avec des dépenses élevées à venir comme les 2 millions de francs prévus pour la maison de santé. Alors continuité avec une partie de la municipalité qui repart pour un tour ou rupture de l'ordre établi, à voir le 8 mars ce que décideront les citoyens Tachi.
Et demain, les enjeux prendront une autre tournure avec Ormont dessus. Si à Grillon, il y a presque deux fois le nombre de personnes pour les sièges, il manque du monde à Ormont dessus.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.